Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'équipe est sauvage, la grande compétition qui met au prix chaque après-midi les plus grands journalistes de cette station. Quand je dis les plus grands, c'est une manière de parler, hein, les plus compétents, car techniquement, ils ne sont pas méga grands, comme notre invité a pu le constater hier avec Emmanuel Duteil, le chef du service économie.
Salut Emmanuel.
Tu te mets très très bas?
Toujours, parce que je déteste ne pas avoir les pieds qui touchent le sol, et vu que je fais 1m14...
Heureusement, nos journalistes sont grands par le talent, et c'est déjà ça. Leur objectif, vous divertir et vous cultiver dans un même élan. Un seul sera élu chroniqueur du jour sous le contrôle de ma muse, ma fée, Eva Rock, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on zappe ce soir à la télé. Mais d'abord, accueillons notre invité d'honneur cet après-midi, un géant de la chanson française, qui est entre autres l'auteur Eva de votre chanson préférée.
Parce qu'il est beau, mon chien.
Ah non, ils ont dû se tromper en régie. Non, c'est pas celle-là. Non, je parlais de...
On l'a trouvée plutôt jolie.
Bonjour Pierre Perret.
Oui, c'est plutôt Lily, oui.
Salut la foule en délire.
Mais elle aime bien aussi celle qu'on écoutait avant. Merci d'être avec nous.
Elle a du goût. Ah,
voilà, évidemment. Merci Pierre.
Elle a du goût. Merci d'être avec nous cet après-midi pour fêter la fin d'un confinement qui vous a à la fois inspiré et terrifié, j'ai l'impression, Pierre Perret, cette période qu'on vient de vivre étrange.
Mais j'ai tout raconté dans ma chanson.
Hein. La réconfinie qu'on va écouter tout à l'heure. Mais comment vous avez trouvé l'énergie pour faire cette chanson? Parce que dans les interviews que j'ai lues ces derniers temps, on a l'impression que vous étiez un petit peu tétanisé dans un premier temps par ce virus, par les chaînes infos, toutes ces infos contradictoires qu'on nous annonçait
en boucle. Ils m'ont un peu scotché par toutes les conneries qu'ils ont débitées. Ça, c'est sûr qu'il y en a eu un paxon. Hein.
Ouais.
Mais non, je suis resté relativement impavide. Mais un jour, quand même, j'ai dit, là, je prends le stylo et je vais m'immerger dans cette histoire abracadabrantesque.
Résultat, on en est à plus de 2 millions de vues hein, sur les réseaux sociaux. C'est énorme. Votre chanson, Les Confinés, on va l'écouter. Évidemment, on va parler de ce livre, car vous arrivez en librairie Aphorism and Blues. On retrouve votre espièglerie légendaire. Juste le temps de vous présenter, Pierre, les forces en présence cet après-midi. La première a su admirablement s'adapter à notre invité du jour. Farah Kasri est vétérinaire et donc, elle nous fait cette promesse aujourd'hui, Pierre. Tout, vous saurez tout sur le zizi des animaux.
Ah,
bonjour Farah Kasri.
Bonjour Mathieu, bonjour Pierre, bonjour Eva.
Alors comme bonjour, ça, on va tout savoir. Attention hein, Farah, limitez-vous au sexe des animaux, n'évoquez pas le mien.
Par rapport à la taille,
oh,
c'est un signe.
Non, non, les animaux, le sexe des animaux, c'est ça?
Oui, mais je vous rappelle que l'être humain fait partie aussi des espèces animales. Hein, donc, je ne serais pas impressionné par le vôtre, j'en ai vu d'autres.
Je ne vous permets pas et je vous donne rendez-vous. Face à vous, Pierre Perret, face à vous, le mâle alpha de la rédaction d'Europe 1. Un playboy qui souffle le chaud et le froid sur le petit cœur fragile d'Eva Rock. Tantôt, elle croit que quelque chose est possible entre eux. Tantôt, d'un regard, d'un mot, tout s'effondre.
Tout le monde n'est pas né pour connaître l'amour.
Eh merde.
Bonjour, cruelle Anissa Mbillard.
Bonjour Mathieu, bonjour Pierre Perret, bonjour
Maître
à tous.
Maître Anissa, je vous salue bien bas.
Vous êtes notre expert high-tech, Anissa, et aujourd'hui, un expert high-tech innovation inquiet.
Oui, parce que je vais essayer de vous expliquer pourquoi il faut désactiver la fonction géolocalisation de votre téléphone portable, parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait aussi servir au ciblage publicitaire politique. Je vais vous raconter tout ça.
Je comprends vos craintes, néanmoins, comment vous faites quand vous commandez Deliveroo ou un livreur de...
Eh bien, vous ne commandez pas Deliveroo.
C'est une bonne réponse. Merci, Anissa. Le programme est donné, l'équipée sauvage peut démarrer.
Europe 1, l'équipée sauvage.
C'est donc Pierre Perret qui nous accompagne cet après-midi. Vous publiez un livre qui vous ressemble, Aphorism and Blues, aux éditions Adèle. On va commencer par le commencement, car pour Eva, c'est pas clair, il faut donner la définition du mot aphorisme.
Eh ben, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que je ne sais même pas ce que ça veut dire.
Voilà, alors Pierre, la pauvrine est perdue d'entrée. C'est quoi un aphorisme? Quelle serait la définition de Pierre Perret d'un aphorisme?
C'est une évidence, mais qui n'est pas forcément la vôtre. Voilà,
une
c'est
évidence
la
qui n'est pas forcément la nôtre. Et est-ce que... Il y a un effet rhétorique, on cherche quand même quelque chose dans un aphorisme, il faut que ça soit joli, il faut qu'il y ait un rythme. C'est...
Alors c'est pratiquement comme une chanson, ça peut se faire que ça pourrait être une mini-chanson avec deux vers, simplement, mais il vaut mieux que ça soit harmonieux et que ça parle tout seul, c'est-à-dire plus c'est concis et plus ça vous pète dans la gueule. Voilà.
Et écoutez, bah celle-ci elle est pour vous, qui rit le vendredi a changé de femme le jeudi.
Bah non, elle est pour vous.
Comment ça, elle est
pour moi?
Oh mon Dieu, le coup de boomerang. Oh, c'est lâche.
Comme vous êtes bête.
Oh, c'est lâche.
Alors, mais
c'est...
comment vous avez fait? Vous les avez notés au fur et à mesure
Alors, c'est une espèce de compilation.
Il y en a 550.
De tout ce que j'ai pu faire pendant 50 ans. Parce que dans tous mes cahiers, quand j'écris des chansons, à chaque fois, j'ai des phrases comme ça qui servent à rien, si vous voulez, dans ma chanson.
C'est des chutes.
Ouais. Voilà. Ce sont des chutes qui m'ont amusé à moi, mais qui, dans le contexte de la chanson, n'entrent pas, ouais. C'est pas la pointure. Donc, ben, je mets ça de côté. Et un jour, j'ai repris tous mes cahiers. Et il y en a au moins, j'en ai retrouvé à peu près 300 ou 350. Et puis, j'en ai mis sous le coude. J'ai travaillé pendant 2 ou 3 ans pour faire les 150 ou 200 derniers. Ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail.
Des messages à l'attention des femmes, notamment. Veuve, sèche tes larmes, savoure dès à présent cet amant plein de charme, ton mari était chiant.
Ah, ça, c'est bien ça.
ça vous parle plus. Voilà, tout de suite.
Non, mais j'en ai noté quelques-unes, hein, vous concernant.
On va y revenir. 550 aphorismes dans son livre, mais suite à sa rencontre avec Eva Rock, un deuxième tome est déjà en préparation. Oh. Pierre Perret est notre invité d'honneur jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, grâce à Pierre Perret, il y a longtemps que vous savez tout sur le zizi, mais quid du zizi des animaux ? Fala Kaski éclaire notre lanterne, l'occasion pour elle d'être à la hauteur de sa devise, soigner l'animal.
De la tête aux pieds jusqu'à l'extrémité de la queue.
C'est bon.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël.
Taquinez vos zygomatiques tout en secouant vos neurones, voilà la mission de l'équipée sauvage. 2 heures à la frontière de l'info et du rire en compagnie d'un invité vedette aujourd'hui, Pierre Perret, et des meilleurs journalistes d'Europe 1 qui guerroient au service de votre culture G. Alors justement, voici venir notre première concurrente du jour, vous la retrouvez sur France 5 dans le magazine de la santé. Notre vétérinaire Fala Kaski a une double mission dans l'équipée sauvage, vous faire découvrir des choses incroyables sur les animaux et me guérir de ma phobie des chauves-souris, ou plutôt nous guérir, puisque d'autres membres de l'équipe sont visiblement aussi flippés que moi. Sur le premier point, c'est gagné. Sur le deuxième, en revanche, il reste encore du boulot, comme on a pu le constater hier durant la coupure pub. La salle des chauves-souris du zoo de Beauval, c'est une terreur. Ça devrait être interdit. Tu rentres dans la salle et tu crois que les chauves-souris sont derrière les vitres, comme dans tous les zoos. Je rentre en premier derrière le truc, et là je sens une chauve-souris, et je sors en disant...
De toute façon, j'ai peur de tout ce qui vole. Même les pigeons, ça m'arrive de mettre par terre sur le trottoir.
Cet après-midi, oh là là. Jurez-moi une chose, que vous ne parlerez pas du zizi de la chauve-souris, parce que rien que le mot, ça me donne des frissons.
Ah, c'est dommage, parce que ce sont des spécialistes du cunnilingus, donc bah non, j'en parlerai pas.
Ah,
j'en parlerai pas.
Ah bon ?
Mais qu'est-ce que... Vous en avez trop dit.
On en parlera la prochaine
Pierre
fois.
Pierre Perret
mais...
était ah belle. Bah, on veut savoir. En quoi
moi, je
en
voudrais
quoi
savoir. Comment ils s'y prêtent pour le radana, alors là, ça fait comme un pébroc à l'envers.
Eh ben exactement, effectivement, le fait qu'elle puisse avoir la tête en bas et l'organe génital féminin en haut, eh bien, elles peuvent facilement se faire des petits câlins. Ce sont des espèces qui sont extrêmement câlines, hein, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Elles se font beaucoup de mamours, elles sont assez collées les unes aux autres et elles vivent vraiment en colonie, elles ont besoin de contact.
On appelle ça des câlins, c'est des prises électriques. Hein,
c'est vrai que le mot câlin ou mamour pour un cunnilingus, c'est vous avez une manière qui est de parler qui est très jolie. Merci Farah. Alors racontez-nous le zizi des autres animaux, puisque c'est le thème de votre chronique.
Oui, forcément, moi, qu'on m'a dit Pierre Perret était là, forcément. Et j'ai pensé au zizi animal. Et saviez-vous que la première espèce à avoir eu un organe génital d'intromission, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle d'un point de vue scientifique, eh bien, on l'a vu chez un poisson à carapace qui a vécu il y a environ 400 millions d'années. Eh bien, depuis, cet organe masculin n'a cessé d'évoluer, de s'adapter au mode de vie et à la stratégie de reproduction des espèces. C'est pour cette raison que l'on retrouve des formes, des tailles et même certaines curiosités de la nature quand il s'agit du pénis des animaux.
Quelle espèce a le plus petit pénis ? Question des Varocs de Paris.
Bah non. Alors ça m'étonnerait que ça soit moi qui pose cette question.
La suivante, ça sera celle des Varocs. Voilà. Ça, c'est la question que je pose moi.
Et bien aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est le gorille.
Ah
le
bon
gorille a un pénis qui mesure à peine 3 à 5 cm. Alors qu'un mâle, hein, le mâle adulte, un mâle adulte, vous imaginez, il mesure à peu près 1,50 m avec 160 kg. C'est que du muscle. Et pourtant, son zizi ne mesure qu'à peine 5 cm au maximum. Et bien, selon les primatologues, ce n'est pas un handicap pour lui, puisque chez les gorilles, il y a un seul mâle alpha. Pour un groupe de femelles, c'est un système
en harem et la taille du pénis chez les gorilles, eh bien, ce n'est pas un critère de séduction. Et apparemment, cela ne réduit pas du tout le taux de reproduction. Ce n'est pas la taille du zizi qui fait l'efficacité.
Vous connaissez...
Eva fait non de la tête.
Non,
mais vous n'êtes pas gorille, Eva.
Je parle de gorille, c'est pour ça que j'ai bien insisté. Hein.
Vous connaissez le bon mot de Coluche hein, qui disait « c'est pas ceux qui ont les plus grandes oreilles qui entendent le mieux ». Et il précisait, et moi ça m'arrange.
Justement, là voilà la question des varocs qu'on attendait.
Qui a la plus longue?
Alors, chez les mammifères, logiquement, c'est la baleine bleue. Puisque la baleine bleue mesure déjà 30 mètres, donc on peut imaginer que son pénis va être aussi long. Donc effectivement, c'est entre 2 et 3 mètres. Mais quand on compare 2 à 3 mètres par rapport à la taille globale de l'animal qui est de 30 mètres,
oui, c'est
plus si impressionnant que ça finalement, puisque tout est relatif. Eh bien, l'espèce qui a le plus long pénis, eh bien, c'est un canard argentin, l'adulte, qui mesure à peine 40 cm. Eh bien, c'est aussi la taille de son pénis.
Ah, voilà une proportion intéressante. Ah,
quand même, vous imaginez, ça commence à être un petit peu intéressant, là. Et il faut savoir que les canards, eh bien, ce sont des exceptions, parce que généralement, les oiseaux, eh bien, ils n'ont pas de pénis. Hein. C'est ce qu'on appelle, ils font une reproduction de cloaque à cloaque, on appelle ça le baiser cloacal, quand on veut être un petit peu romantique. En éthologie, eh bien, chez le canard, lui, vu qu'il a un pénis quand même de 40 cm, hein, et je crois bien que vous n'avez jamais vu un canard déambuler avec un pénis déroulé, eh bien, normalement, pour que ça soit un peu pratique, il est enroulé comme un tire-bouchon à l'intérieur. Donc, et au moment opportun, il va se dérouler pour atteindre les fameux 40 cm. Et l'érection, eh bien, elle est dite explosive, car elle se produit en moins d'une demi-seconde.
Ah, ça se déroule comme un serpentin, quoi. Exactement. Comme une langue de belle-mère, quoi, si j'ose dire.
Exactement.
Et là, maman, elle s'y attend pas, elle en prend plein les moustaches.
Oui, mais vous voyez, la nature est bien faite, je vais vous dire pourquoi. Parce que si le pénis du mâle canard a cette forme-là, ce n'est pas pour rien, c'est pour s'adapter à la forme et à la longueur des voies génitales de Madame Canard. Mais attention, il y a vraiment une particularité chez les canards argentins. Les voies génitales du mâle vrillent dans un sens, tandis que ceux de la femelle vrillent dans le sens inverse. Ah oui. Autrement dit, le mâle ne peut féconder la femelle que si elle est d'accord.
Ah, ça,
et si
bien.
Elle est d'accord, elle va se décontracter. Elle va décontracter ses voies génitales pour permettre l'intromission de l'organe mâle. Sans cela, point de caneton.
Voilà. Moi, j'ai vraiment appris le mot intromission, enfin le sens de l'intromission dans
mais
la nature.
Dis donc, ce qu'elle nous a raconté, la maman canard, là, il faut que ça soit le tunnel sous la manche qu'elle est à disposition pour le mec, parce que avec un machin pareil, comment veux-tu qu'il arrive à dérouler le tuyau, lui?
Bienvenue sur Europe 1, Radio de la Découverte. Merci, Farah Kasri.
Europe 1.
Plus qu'une séquence, un support pédagogique de référence pour tous les étudiants en école de journalisme, mon interview de l'invité. Mon secret pour une interview réussie, un seul, des questions choc et surtout qu'on n'a pas entendu ailleurs. Dernier exemple en date avec Benabar lundi. On l'a dit tout à l'heure, vous avez été obligé d'interrompre évidemment votre tournée au moment des mesures sanitaires.
Ah non, moi c'est la demande du public, ça n'a rien à voir. Ah non, on s'en fout, c'est pas le Covid du tout. Il y a eu des pétitions. Est-ce que tu peux arrêter de chanter, s'il te plaît?
Pierre Perret se foutra-t-il de ma gueule autant que Benabar? Réponse après justement Pierre Perret, les confinis sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures de découverte éclectique traversée de joyeux éclats de rire en compagnie d'un invité qu'on apprend à découvrir grâce à la maestra journalistique d'un intervieweur hors pair, le meilleur de sa génération selon Monique Noël, le meilleur tout court selon Fernande Noël, Bibi. Hier encore, face à la danseuse étoile Dorothée Gilbert, j'ai fait l'étalage presque insolent de mes dons d'intervieweur. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit « Ah, ça suffit quoi ?»
Bah non.
Mais quand même, avec tous ces contacts, là, quand on voit tous ces portées et tout ça, il doit y avoir des petites choses qui se nouent quand même, non, non.
Bon.
Alors, aujourd'hui, Pierre Perret, on va jouer au ni oui ni non. Hein. Vous êtes obligé de développer quand je vous pose une question.
D'accord.
On rappelle votre nouveau livre, Aphorism and Blues. On continue d'en parler durant ces 2 heures. Et on parle de cette chanson qu'on vient d'écouter, Les Confinis, qui a déplacé les 2 millions de vues sur YouTube. C'est énorme. Et il y a beaucoup de réactions, j'imagine, puisque vous avez synthétisé quand même un peu ce que beaucoup de gens pensaient tout bas. Vous avez su le mettre, évidemment, en mots et en musique. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de réactions. Les infirmières doivent vous tirer leur chapeau.
Ah, j'ai beaucoup de remerciements des infirmières, entre autres, mais bon, tous les gens qui communiquent, qui me remercient, qui m'envoient des mails et des... C'est exactement ça, il me dit, c'est exactement... Voilà, c'est ce qu'on voulait dire, voilà. Et ça, c'est merveilleux, parce que, bon, ça fait exulter un peu quelque part, parce qu'il y a tellement de gens qui pensaient ça tout bas qu'il fallait bien quelqu'un pour le dire, essayer de le dire tout haut, quoi.
Vous dites, il y a des auteurs qui écrivent une chanson en 3 jours, il me faut parfois 5 ans pour parvenir au résultat que j'attends. Comment vous avez fait pour écrire une chanson qui synthétise si bien l'air du temps en si peu de temps, finalement?
Ça m'a pris 3 semaines.
Ah bah, là, 3 semaines, vous êtes surpassé.
Encore. Pour moi, c'est très rare d'arriver à écrire une chanson en 3 semaines. Et... Mais j'ai... Alors, quand ça a commencé à me tarabuster la théière, même la nuit, je me levais pour noter tous les vers qui m'arrivaient, tout ça. Et le matin, sur la table de chevet, j'avais plein de trucs et j'étais crevé chaque fois que je me levais à 6 ou 7 heures du matin parce que j'en pouvais plus tenir. Il fallait que j'écrive.
C'est l'énervement qui vous a poussé à l'écrire, la chanson ?
Oui, entre autres, oui.
L'énervement parce que... contre qui en priorité, je dirais, Pierre-Pierre ? Entre les chaînes info et les experts qui se succédaient sur les plateaux, contre les politiques, contre nos dirigeants, contre qui vous a le plus exaspéré dans cette crise ?
Bah, tous ceux qui se foutaient de nous au quotidien, c'est tout, qui annonçaient des conneries et le contraire le lendemain.
La légende dit que c'est en écoutant l'équipe sauvage qu'il a eu l'idée du titre de la chanson, Les Confinis. Pierre Perret reste avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Sommes-nous tous fliqués par nos smartphones ? Pour Anissé Mbida, notre expert high-tech, la réponse est clairement oui. Des publicitaires auraient été pris la main dans le sac à vendre les données de géolocalisation de manifestants à des partis politiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Nous allons serrer les fesses.
Anissé, heureusement, des solutions plus proactives.
Europe 1, l'équipé sauvage. 16h, 18h. L'équipé sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Il est un des chanteurs français les plus célèbres et les plus populaires, surtout quand viennent les vacances.
Les jolies colonies de vacances.
Alors, aujourd'hui, les colonies de vacances, entre le Covid, le moustique tigre, les tiques qui portent la maladie de Lyme et les prêtres pédophiles, elles doivent avoir un peu du plomb dans l'aile. Est-ce que vous êtes nostalgique, Pierre Perret, d'une époque que vous avez vécue, celle des 30 Glorieuses, et d'une jeunesse peut-être moins désabusée, plus optimiste que celle d'aujourd'hui ?
Ah bah oui, de ça, oui. Des prêtres pédophiles, non. Mais de ça, oui, c'était un... délectable tous les ans de se retrouver à faire les cons dans les colos, parce que je me souviens d'une route qu'on prenait pour aller faire des promenades l'après-midi comme ça, et c'était bordé de pruniers. C'est des pruniers sauvages, comme votre émission. Et tous les gosses grimpaient dans ces machins et on se filait des ventrées de ces machines, mais on n'arrivait jamais au bout du chemin intact. Hein. La brochette de gamin qui était au-dessus des fossés, le short sur les godasses. Ah, je te raconte pas. C'était...
Mais c'est marrant parce que on a passé un extrait des jolies colonies de vacances, mais la chanson a longtemps été interdite, enfin pendant 6 mois, je crois, a été interdite à la radio par Madame Yvonne Pompidou. Yvonne de Gaulle, pardon.
Non, elle n'a pas été interdite. Ils ont demandé à Roland Dordain, qui était le patron du Radio France de l'époque. Elle a dit, monsieur, nous vous serions infiniment reconnaissants de ne plus programmer cette chanson que nous considérons comme la honte de la France. Alors j'étais c'est tellement incroyable. Content d'être ouais. La honte de la France. Non, c'est après, alors à la télévision, que j'ai été interdit par un monsieur qui s'appelait Contamine. Il a demandé que je tousse sur le mot pipi dans le lavabo.
C'est ça.
Il faut qu'il fasse... J'ai fait dans le lavabo.
On peut imaginer pire, du coup. Alors,
moi, j'ai dit à mon pote qui était le cadreur, je lui ai dit, écoute, tu me fais un gros plan. À ce moment-là, quand je chante, parce qu'on était en direct quand même, tu me fais un gros plan. Et quand est arrivée cette phrase, j'ai fait pipi dans le lavabo. Et à ce moment-là, j'étais cuit. À la fin, il m'a dit, Guilux est venu, il m'a dit, bon, ben ça y est, il m'a téléphoné, il t'est interdit pour 6 mois. Ben j'ai dit, c'est bien, je suis interdit pour 6 mois. Et j'ai vraiment été interdit d'antenne pour 6 mois. Et au bout de 6 mois, ils m'ont demandé de refaire de l'antenne. Et c'est moi qui les ai punis pendant 6 mois. J'ai dit, je ne ferai plus de télé pendant 6 mois.
Et donc, ça a duré un an.
Voilà.
Ouais. Face à vous, mon cher Pierre, il partage votre sens de l'humour, votre goût aussi pour le potage. Camarade rieur, on peut néanmoins lui reprocher un petit côté vantard, surtout sur la dimension de ses attributs virils.
C'est très pratique, quand on l'utilise pas, on le replie et il n'y a rien qui dépasse du vélo.
Oh, un peu marseillais sur les bords. Anis Mbila n'en est pas moins un grand expert des nouvelles technologies, dont il est à la fois un fan et un critique. Aujourd'hui, par exemple, vous êtes remonté contre une pratique antidémocratique.
Oui. Alors, si je vous dis l'application XYZ veut avoir votre position, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non, annulé. Ça vous dit peut-être quelque chose.
Moi, je dis toujours oui. Moi, ma position, il serait surpris de toi.
En général, on dit oui parce qu'on en a marre de voir le message 15 fois par jour, donc on dit oui. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé qu'il y a énormément de manifestations, qu'on est aussi en pleine période électorale. Eh bien, une régie publicitaire vient d'être prise la main dans le sac à revendre les contacts des personnes qui participent aux manifestations. Ça veut dire, par exemple, que vous allez manifester pour, contre les violences policières. Donc, ils vous géolocalisent.
Ça existe.
Place de la République.
Oui, visiblement. Ouais.
Place de la République, à tel jour, à telle heure. Et dans ce cas-là, vous êtes géolocalisé dans cette manifestation. Les écologistes et les partis de gauche vont récupérer votre contact et vous envoyer de la publicité. Et à l'inverse, si vous êtes de l'autre côté de Paris et que vous êtes en train de manifester pour la police, en soutien à la police, eh bien là, ça peut être le Front National qui peut être intéressé pour vous envoyer ensuite des petits messages publicitaires.
Mais comment on arrive à savoir que vous êtes dans une manifestation? Vous pourriez être en train dans le café à côté de là où passe le cortège de la manifestation.
Alors ça c'est tout à fait vrai, mais en fait ce qui se passe c'est qu'il utilise les applications de votre téléphone portable, dont j'en ai déjà pas mal parlé, par exemple Google Maps. Google Maps aujourd'hui c'est une application qui est faite pour vous géolocaliser, mais elle suit également l'ensemble de vos trajets. Tous vos trajets.
Mais je l'utilise tout le temps ça.
Mais allez sur la fonction mes trajets.
Quoi? Mes trajets? Il faut que je supprime.
Et là vous voyez, non mais c'est pas qu'il faut le supprimer, mais il faut désactiver certaines fonctions parce qu'il est capable de retracer tout ce que vous avez fait pendant des mois et des années.
Tu vas désactiver.
Et d'aller peut-être retrouver ta fiancée.
Oui, justement. Alors, désactiver tout ça.
Et d'ailleurs, Google, on rappelle quand même que Google, 80% de son chiffre d'affaires, c'est de la publicité. Google est une énorme régie publicitaire à la base. Et c'est cette fonction de trajet, elle permet de connaître l'affluence dans certains magasins. Donc, il y a aussi des intérêts. Mais il n'y a pas que Google, il y a aussi toutes les applications et tous les jeux gratuits. Vous savez, il y a énormément de jeux qu'on télécharge, la météo, des applications de divertissement qui sont gratuites, qui se payent avec la publicité, mais ces publicités-là sont géolocalisées, c'est elles qui récupèrent votre position. Et en général, on ne fait pas attention parce que c'est dans les conditions générales d'utilisation et on les lit jamais. Et elles récupèrent votre position et ces positions-là sont ensuite revendues aux régies publicitaires et à qui ça intéresse et c'est parfaitement légal de récupérer ces informations.
D'où la devise, si c'est gratuit, c'est vous le produit.
Exactement.
C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier. Et en France, pourtant, la publicité politique est interdite.
Oui, alors elle n'est pas tout à fait interdite, elle est parfaitement encadrée, donc ça ne peut pas arriver que, je disais tout à l'heure, le Front National ou l'extrême droite, parce que l'extrême droite ou l'extrême gauche qui utilise vos informations, mais c'est arrivé aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a aussi les fameuses manifestations Black Lives Matter et les contre-manifestations où il y a des gens qui sont pour la police et les informations des contacts des personnes qui participaient à ces manifestations-là ont été utilisées par les partis politiques pour justement pouvoir contacter les personnes et pousser leurs candidats à vedette, soit pro ou anti, selon le camp dans lequel on se trouve. Et ça rappelle en fait le scandale Cambridge Analytica, vous souvenez.
Carrément.
C'était en 2016, et on dit que ça a favorisé l'élection de Donald Trump. On rappelle Cambridge Analytica, c'était un jeu sur Facebook, un faux jeu, qui en fait était de l'injuste pour récupérer vos informations et faire du ciblage publicitaire. Et justement, on se dit que cette année, on est une année d'élection américaine, et on se dit que tous les moyens sont bons, justement, d'utiliser les réseaux sociaux et les informations privées pour cibler, pour pousser des informations politiques sur les candidats. Donc attention, comme l'a dit Mathieu Noël et comme d'autres personnes avant, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, donc méfiez-vous et désactivez la petite fonction.
Oui, mais je l'ai dit aussi, d'autres l'ont dit, je l'ai dit, on pourrait imaginer que c'est moi qui l'ai inventé, c'est pas mal cette phrase, j'aime bien, je la garde. Pierre Perret, est-ce que ça vous fait peur ce monde du numérique, ce traçage, cette géolocalisation, ou au contraire, vous qui êtes resté, je sais, très jeune dans votre tête, beaucoup plus jeune que moi, est-ce que vous dites tout simplement, on va dans ce sens-là, il faut juste s'adapter, ça va faire.
Ça me fout les chocottes.
Ah, ça fout les chocottes.
Ouais. C'est quand même...
Mais vous en avez un portable.
Vachement préoccupant, oui, mais je le ferme et je m'en sers jamais.
Ah, d'accord.
C'est la meilleure solution. Petit conseil à nos amis geeks qui nous écoutent, vous l'éteignez, comme ça vous ne serez pas crassé. Alors, on aime tous l'enthousiasme technologique d'Anissé, si friand de nouveautés, mais heureusement, Eva est là pour tempérer son ardeur quand, par exemple, il s'emballe pour une innovation qui n'est finalement pas si innovante.
Le truc qui m'excite le plus, c'est cette histoire de moto à pédale. Je trouve ça génial comme concept.
Ça s'appelle un vélo.
Elle est la voix de la raison, la parole vrai. Du bon sens dans cette émission, sauf bizarrement au moment du quiz, où elle se relâche intellectuellement et finit par dire n'importe quoi, la peur de gagner certainement, ce qui est un peu paradoxal vu qu'elle a 176 défaites d'affilée à son compteur.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Bonne humeur et gai savoir, vous écoutez l'équipée sauvage, deux heures durant lesquelles le rire n'est jamais moqueur, toujours convivial car notre émission est profondément consensuelle, comme j'ai tenu à le rappeler hier, suite à un léger dérapage de ma part sur l'intérêt du label Village Fleuri.
Voilà, vous avez tous vu ces petits panneaux avec des fleurs, 1, 2, 3, 4.
Souvent, c'est les villes où il n'y a pas grand-chose. Hein. Ils mettent un petit truc Village Fleuri.
Ah non !
Bah si !
C'est un label, c'est sérieux !
Je viens de percer en régie qu'il y a 80 000 villages labellisés, que je suis en train de perdre tous les auditeurs de ces villages. Non, c'est formidable. J'aime la France, j'aime les villages et j'aime les villages fleuris. Bien sûr ! Et mes chers compatriotes, quand on aime la France et qu'on aime ces merveilleux villages fleuris, on aime aussi Pierre Perret.
Elle dit ceux de la consulte, on ne peut plus les soigner. Nos médecins les auscultent assis
en
dans les escaliers.
Il y a 14 ans déjà, La Petite Infirmière, une chanson qui résonne encore différemment aujourd'hui à nos oreilles. C'est vraiment une profession qui mériterait de voir en tout cas les salaires revalorisés, parce que c'est bien beau de les applaudir, mais à un moment, il y a besoin concrètement
c'est un problème
d'un soutien
éternel.
Financier.
Ça, tous les gouvernements qui se sont succédés à ce propos ont été une bande de faux culs, parce qu'ils leur ont fait des promesses et ils n'ont jamais rien tenu. Il y a sûrement un problème à résoudre là. Est-ce qu'ils vont le résoudre un jour ? Il n'y a rien de moins sûr.
Oui, vous n'avez pas l'air très optimiste. Vous dites dans Aphorism and Blues, le livre que vous publiez, la politique est l'art de mentir d'un air sincère à des gens qui font semblant de vous croire.
Exactement.
C'est assez vrai, mais c'est un peu désespérant parce que sans la politique, il n'y a pas de démocratie. Il faut quand même croire un minimum en la politique.
Il faut poser cette question aux politiques, mon cher.
On les invitera. Oui. Face à vous, Pierre, une journaliste engagée qui est prête, s'il le faut, à porter un jour la plume dans la plaie. Il faut juste lui laisser le temps de trouver la biceptine. Eva Rock, êtes-vous prête à défier Pierre Perret intellectuellement ?
Oh, surtout pas. Alors là, non.
Eh bien pourtant, c'est quand même l'heure du quiz.
Voilà.
Pierre, pour le questionnaire du jour, nous allons faire un hommage à votre prose fleurie. Voici un quiz sur l'argot. C'est pas...
Oh, ah mais non, je suis nulle en argot.
Vous allez tellement faire. Vous allez vous faire étriller. Eva Rock, si je vous dis pisser sa côtelette, c'est avoir mal suite à un choc ou accoucher ?
Ah,
pisser sa côtelette.
Ah non, l'accouchement, c'est marrant.
Je ne vous demande pas si c'est marrant, je vous demande d'essayer de réfléchir et de trouver la bonne réponse.
L'accouchement.
Accoucher,
bravo. Oui.
C'est une bonne réponse.
Ah,
effectivement, on peut le dire aussi déballonner, débouler ou donner la vie, mais c'est beaucoup moins drôle. Pierre Perret, soutirer du caramel, c'est prendre de l'argent ou obtenir des aveux ?
Ah, je pense que c'est peut-être prendre du blé.
Soutirer de l'argent, c'est une bonne réponse. Avec douceur, de la manipulation, mais récupérer le flouze quand même. Et Varrock, si je vous dis faire sa mouquette,
faire
les yeux doux ou montrer son derrière ?
Faire sa mouquette ? On va faire les yeux doux.
Faire les yeux doux, bah ça c'est parce que vous êtes romantique, mais attends, en fait c'est montrer son derrière.
Oh non.
Même si c'est vrai, je vous le concède, il est techniquement possible de montrer son derrière tout en faisant les yeux doux. Il suffit de se retourner discrètement au moment fatidique. Pierre Perret.
Ou alors tu fais un œil doux, juste celui de derrière.
Pierre Perret, si je vous dis, j'espère que vous n'avez pas découvert Saint-Pierre pour couvrir Saint-Paul. Ça veut dire payer ses dettes en empruntant ou ça veut dire c'est du pareil au même ?
Non, c'est la première...
Payer ses dettes en empruntant, effectivement, c'est une bonne réponse.
Oui. Eva, vous ne la savez pas ? Je ne sais pas cette expression, non.
Ah, moi, je l'avais entendu.
Ouais.
Eva Rock, vous êtes trop jeune peut-être.
Oui.
Eva Rock, j'espère que vous n'avez pas le bouchon ficelé. Ça veut dire, j'espère que vous n'êtes pas de mauvaise humeur ou j'espère que vous n'êtes pas constipé.
Oh non, non. Non, mauvaise humeur.
Mauvaise humeur.
Bah,
eh
oui.
Non.
Mais non, c'est vrai.
C'est être constipé, avoir le bouchon ficelé.
Je trouvais ça trop évident. En fait.
Si c'est vrai, je vous le concède encore une fois, qu'on peut être techniquement constipé et de mauvaise humeur simultanément.
Ou de bonne humeur en étant constipé.
C'est vrai, mais ça vous arrive moins souvent.
Oui.
Ou avoir le tire-bouchon bloqué.
Voilà.
Avoir le tire-bouchon bloqué. Magie de la langue française. Enfin, Pierre Perret, attention, si je vous dis qu'Eva a les oranges sur l'étagère, c'est qu'elle a de gros regrets ou qu'elle a un décolleté trop provocant. Les oranges sur l'étagère.
Ah, je pense...
C'est la deuxième.
Mais oui, c'est décolleté, les oranges, non ?
Mais oui, Eva, mais c'est une bonne réponse de Pierre Perret.
Et non, c'est, pas de Pierre.
C'est d'avoir un sacré décolleté, c'est l'ancêtre d'avoir du monde au balcon. Et une poitrine généreuse, on dit aussi la tétonnière. Une poitrine flasque, on dit en revanche la blague à tabac. Même si, comme dirait Franck Michael, toutes les femmes sont belles. Victoire de Pierre Perret dans notre quiz.
Europe 1.
Saviez-vous, mon cher Pierre, qu'on passe désormais 17 minutes en moyenne chaque soir à s'engueuler avec sa conjointe ou son conjoint devant l'écran d'accueil de Netflix?
Ah, moi, plus que ça.
Vous, plus que ça?
Oh oui, oui.
Ah, pour choisir le programme télé?
Ah oui, oui, oui.
Ah bah c'est terrible, hein.
Non, mais surtout de sa part à elle, pas à moi.
Évidemment, c'est toujours elle la fautive. Songez au nombre de divorces qui pourraient être évités si seulement les gens avaient le réflexe d'écouter Europe 1 à 5h10, l'heure de la rubrique d'Evaroc, ses conseils télé-écran. C'est juste après Oshi, ta marinière sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Pierre Perret est avec nous cet après-midi. Est-ce que vous suivez l'éclosion de la jeune génération de chanteurs, Pierre Perret? Est-ce que vous avez un œil sur les réseaux sociaux? Pendant le confinement, il y a eu beaucoup de jeunes chanteurs qui ont posté des chansons, des lives chez eux. Est-ce que vous suivez un petit peu? Vous avez des préférences ou vous êtes un peu loin de cette génération-là?
Pas beaucoup. J'étais plutôt pour la génération précédente, un peu... Enfin, depuis Renaud, Mathieu Chédid et tout.
Ah, vous êtes allé jusqu'à Mathieu Chédid.
Ces floraisons-là, oui. Je les ai bien connues. Dans les plus récents, il y en a que j'apprécie aussi, mais j'ai pas tellement le temps d'écouter. J'ai écrit beaucoup là tous ces temps-ci et j'ai
oui,
pas
c'est vrai
été
que vous êtes très
niveau.
Actif. Mais vous n'avez pas le temps d'écouter forcément tout le monde.
Quatre chantiers sur le feu quand même.
Vous savez, parce qu'on va parler et vous êtes de retour en concert bientôt à la rentrée.
Oui, oui.
Juste une petite question sur la pérennité d'une carrière. On a l'impression que c'est plus possible une carrière comme la vôtre aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a tellement de chanteurs et tellement de... Comment on peut construire? Est-ce que vous pensez que tous ces jeunes, ils ont raison de se lancer dans la musique? Ou est-ce qu'ils vont connaître des... Il y en a beaucoup qui vont être complètement désabusés parce que des carrières à la Pierre Perret, ça ne va plus exister dans le monde de demain.
Bah, je pense que si, ça pensez peut exister, mais...
Sur la durée
Il y en a beaucoup qui s'embarquent sans biscuit. C'est-à-dire que musicalement, souvent, ils pourraient faire des progrès. Et aujourd'hui, c'est un peu... La course à la vitesse, il faut... moi, j'ai reçu des tas de manifestations de jeunes gens qui me disaient « Mais il paraît que vous mettez un temps fou à écrire vos chansons. Moi, les miens, je les fais dans une demi-journée, je fais un disque. » Et oui, mais ils durent une demi-journée aussi. Après, c'est toujours pareil, quoi. Et si on n'investit pas du temps et qu'on ne se fait pas mousser un peu le citron pour essayer de sortir quelque chose qui tienne debout, c'est... C'est pas jouable.
Elle se fait sacrément mousser le citron, comme vous dites. Sa carrière est une ode à la perfection. Élevée à la dure par un père intransigeant qui l'a fessée en public à grands coups de soca, Eva Rock a su s'arracher au destin de gogo danseuse qui l'attendait sur la Côte d'Azur pour devenir journaliste à TSF Jazz, puis rédactrice en chef à Télé 7 jours. Aujourd'hui, elle fait la pluie et le beau temps dans le petit monde des médias et chaque après-midi vers 5h10, elle vous aide à y voir plus clair dans la jungle des programmes du soir. Qu'est-ce qu'on regarde ce soir, Eva?
Eh bien, c'est exactement ce que vient de dire Pierre, c'est qu'il y a des gens qui prennent le temps de faire des contenus pour nos écrans et puis d'autres qui les font très vite. Et là, je vais vous parler d'un documentaire pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Ça se déroule à Marseille et c'est diffusé par Arte ce soir. On va aller dans un quartier en particulier de la cité phocéenne, c'est la Butte Bellevue. C'est un des quartiers les plus pauvres de France, mais c'est un quartier où le mot solidarité a encore du sens. Ce documentaire est intitulé « Péril sur la ville ». Il est signé Philippe Pujol. C'est vraiment une déambulation dans les ruelles de ce lieu pendant une heure à la rencontre des personnages évidemment qui font rythmer ce quartier, comme Madame Tabé, elle est surnommée la shérif par les jeunes, où il y a encore Louis et son frère. Louis et son frère, ce sont deux jeunes garçons. Ils sont plutôt attirés par la rue que par l'école. Écoutez.
J'aime bien frapper les gens.
Moi, je me bats pas, mais je prends mon petit ninjaku qu'ils m'ont construit. Et j'ai pris mon chapeau et j'ai cassé. Et j'ai mis des clous, j'ai mis une ficelle. Et après, je me mets là et je m'entraîne.
L'aspire?
Non, ninja.
Je sais pas, je connais pas. J'ai jamais fait.
Comme Bruce Lee.
comme Bruce Lee, voilà. C'est des gamins qui adorent se battre dans la rue. Ils ont l'accent de Marseille, ils ont la peau qui est tannée par le soleil. Ce sont des gamins qui jouent à détourner l'eau des vannes des trottoirs pour en faire des geysers et se rafraîchir en cet été caniculaire. Et sur la butte, les habitants ils râlent en permanence contre la saleté, l'insécurité, le bruit. Et pourtant, ils sont attachés à ce quartier dans lequel ils vivent depuis des années. Ils se sentent souvent abandonnés par la mairie. Ils regardent un peu les petits immeubles s'effondrer et puis surtout les grands ensembles immobiliers grignoter du terrain. Mais ils restent parce qu'ici, c'est chez eux et ils craignent des gants, comme on dit à Marseille. Ici, surtout, les différentes nationalités et toutes les générations se mêlent dans un joyeux bordel qui est extrêmement bien filmé. C'est une chronique de la vie quotidienne qui pourrait vraiment s'inscrire dans un film de Robert Guédiguian. Ça s'appelle Péril sur la ville. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce film. C'est le premier film de Philippe Pujol, qui est un journaliste qui avait été déjà auréolé du prix Albert Londres en 2014. Et c'est à voir à 22h50 sur Arte ou sur arte.tv si vous ne voulez pas patienter jusqu'à ce soir. C'est vraiment un petit moment de poésie et c'est sublime.
Ça semble très cousin des films de Guédiguian.
C'est très cousin, exactement, parce qu'en plus c'est un peu les quartiers similaires, la Belle de Mai, la Butte Bellevue, etc.
Alors,
et moi j'ai vraiment découvert.
Parce que Guédiguian, ouais, c'est toujours bien
et, voilà,
et c'est toujours formidable. Et ça, ce soir, ben, à cause de vous, je vais être obligé de regarder Arte.
Je suis désolée, Pierre.
Merci Eva. Europe 1. Une première manche se referme dans l'équipée sauvage. De nouveaux journalistes vont nous rejoindre pour tenter de vous éblouir encore plus que les deux premiers. On parlera d'un sujet tabou, le consentement au sein du couple. On vous expliquera pourquoi les Anglais sont fans du nucléaire français. On parlera aussi bon vin et gastronomie. Bref, un programme si chatoyant que, comme le dirait Anis et Mbida en contemplant les courbes affolantes d'Eva...
Bah du coup, on peut avoir un peu de mal à savoir où et quoi regarder.
À tout de suite.
16h, 18h, l'équipée sauvage sur Europe 1. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
C'est la mi-temps pour nos gladiateurs de l'info. Deux nouveaux journalistes s'apprêtent à nous rejoindre pour en découdre, car un seul sera élu chroniqueur du jour au terme de cette émission. Compétition d'autant plus stressante pour eux aujourd'hui qu'elle est arbitrée par Pierre Perret en personne. Pierre, vous restez avec nous, car je sens que vous êtes au moins aussi excité qu'Elise Moon à l'idée de découvrir nos deux ultimes concurrents.
Alors, les deux nouveaux ringards, qui sont-ils ?
Une deuxième heure palpitante se profile, et j'en profite pour préciser à Pierre Perret que contrairement aux odieuses rumeurs qui circulent à mon égard, je ne suis pas du tout un petit chef tyrannique et égocentrique ne sachant pas ce qu'il veut et pinaillant sans cesse, par exemple, sur les réglages de la clim. Demandez à Dorothée Gilbert, notre invitée d'hier, elle vous le confirmera.
Là, moi j'ai un petit peu froid, un tout petit peu, mais peut-être parce que je suis habillé n'importe comment, mais il y a juste un tout petit peu plus de moins de clim.
Un peu plus chaud, un peu plus froid.
Oui, bon, bref, avançons. Ah tiens Eva, je connais cette mélopée. C'est le carillon, il nous indique qu'il est 17h sur Europe.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1. Pierre Perret est notre invité. Vous publiez, Pierre, Aphorism and Blues aux éditions Adèle. Eva, ça y est, vous voyez ce que c'est qu'un aphorisme ?
Mon nom est Clitoris.
Vous pouvez trouver mieux, je pense, mais oui. On continue de feuilleter ce livre avec vous. Pierre, juste le temps de vous présenter nos deux ultimes concurrents du jour. À votre droite, un suppôt du capitalisme. Adolescent, ce n'est pas dans les pages lingerie des trois Suisses qu'il cherchait l'excitation, mais dans les pages saumon du Figaro. Devenu adulte, ses fantasmes se sont diversifiés, mais ils incluent toujours une grande part de frisson patronal, comme dans ce rêve bizarre qu'il a fait hier où il finissait...
Tenu en laisse par Geoffroy de Bézieux du MEDEF.
Bonjour Axel de Tarlet.
Bonjour Mathieu.
On l'aura deviné, vous êtes l'expert éco d'Europe 1. Et aujourd'hui, une bonne nouvelle, pas pour les écolos, mais pour l'économie française. Les Anglais adorent le nucléaire français.
Écoutez, lundi dernier, avec Benabar, j'ai gagné en faisant l'apologie des traders de Wall Street et des milliers de milliards de la finance. Donc aujourd'hui, je voudrais réitérer l'exploit avec quelque chose de tout aussi sulfureux, en faisant l'apologie des centrales nucléaires, voilà, et de la radioactivité.
Il faut le préciser à nos auditeurs, après un virage à gauche, une tentative de virage à gauche pendant un petit moment, n'a pas marché.
Je redeviens productiviste de droite épouvantable et licençons-nous pour faire grimper les dividendes.
Jacques Dutronc a fait une chanson sur vous, l'opportuniste. Face à vous, Axel, elle n'a pas de particule à son nom, mais pourtant elle est la noblesse incarnée, surtout quand elle tente de rassurer une collègue qui, elle, n'a pas la chance d'avoir un jacuzzi sur sa terrasse. Je n'ai pas de jacuzzi sur ma terrasse, en tout cas, c'est ce que je peux te dire.
Bah, jacuzzi à fabriquer des bactéries, mais belle fille, on est boutons partout.
Oh mon Dieu, oh, c'est pas facile d'avoir un jacuzzi sur ta terrasse.
Bien fait, qu'elle dorme.
La baronne Ève de Roger. Ève, vous êtes la chef du service société d'Europe 1, ce qui n'est pas rien. Et aujourd'hui, vous avez enquêté sur un problème encore assez tabou, le problème du consentement au sein du couple.
Alors c'est ça, c'est comment il y a un déséquilibre de désir entre l'homme et la femme. On va essayer de comprendre pourquoi et puis comment faire avec, surtout ça.
Un déséquilibre qui est dans les deux sens, pas ?
Absolument, ah, Mathieu,
absolument,
rassurez-vous.
Rassurez-moi. Alors, le problème du consentement dans le couple ou bien la forme olympique du nucléaire français, quel sujet vous intéressera le plus ? Réponse juste avant 18h. Mais pour l'heure, Eva, il est temps d'écouter votre florilège du jour.
Alors, le florilège du jour, c'est une artiste qu'on a beaucoup entendue pendant le confinement, dont on a parlé dans cette émission. Elle s'appelle Marie Reynaud. Elle avait déjà fait une parodie qui s'appelait « Ouvrez, ouvrez la porte des restos ».
Ouvrez, ouvrez la porte des restos. Il y en a marre de manger des pâtes carbo. Faudrait un vrai risotto préparé par un pisto et amené par un serveur qui veut pécho.
Alors on l'avait déjà passé et hier Marie Reynaud, elle a posté une nouvelle chanson qui raconte une autre déconvenue de ces mois de déconfinement, enfin de confinement et de déconfinement. Écoutez bien.
Trois jours avant, j'ai le stress, les mains qui picotent. Je sais pas quoi leur raconter, je prépare des anecdotes. Je m'entraîne à dire bonjour en gardant le sourire. Alors qu'au fond, j'ai envie de m'enfuir. Appeler ses parents, c'est chiant. Surtout depuis le confinement. En visio, c'est malaise garanti. Maintenant, je suis con.
Voilà, appeler ses parents, c'est devenu chiant.
Mais c'est vrai qu'appeler ses parents en visio, surtout qu'ils ont et toujours oui. le nez dans la caméra, on voit. C'est très très compliqué quand même.
Et, ça, je pense et c'est Marie Reynaud.
On est nombreux
voilà.
à s'y retrouver. Vous avez gardé le contact avec vos proches par visio pendant le confinement, vous aussi Pierre Perret, ou juste par téléphone ?
Au bigophone et le plus souvent, pas du tout.
Voilà. Alors, on oublie Zoom, le bigophone, ça, c'est l'outil du futur pour Pierre Perret. Si vous aimez Pierre Perret, les aphorismes et les grosses centrales nucléaires, restez avec nous, vous ne serez pas déçus.
Europe 1.
Les hommes, Ève Roger les a suffisamment pratiqués pour les connaître par cœur. Avec eux au lit, c'est toujours...
Tout de suite. La grande roue, la totale.
Le problème, c'est que parfois, on n'a pas envie. Problème d'autant plus épineux lorsqu'on n'a pas envie au sein du couple. Ce qui pose la question du consentement entre conjoints. Un livre passionnant vient de sortir sur le sujet. Ève Roger l'a lu pour nous.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Pierre Perret est notre invité d'honneur cet après-midi. C'est lui qui, juste avant 18h, va départager les meilleurs journalistes de la rédaction. Et Pierre, je suis sûr qu'une qualité que vous appréciez, c'est dans le journal. Et Pierre, je suis sûr qu'une qualité que vous appréciez.
Appréciez, c'est pas mal, ça apprécie.
Ah bah bravo.
Ça prend la diction. Ouais.
Allez-y. Allez-y, Mathieu Noël.
Alors, mais cette phrase, je n'arriverai jamais à la prononcer. Si. Et Pierre, je suis sûr qu'il y a un truc que vous adorez, que vous appréciez chez les journalistes, c'est la franchise. La franchise, à mon avis, c'est une valeur qui compte beaucoup pour vous.
Ça existe, ça ?
Non, c'est ce que je me disais aussi. Vous n'allez pas être déçu, car contrairement à beaucoup de ses collègues qui mentent comme des arracheurs de dents, elle dit toujours la vérité.
Ah non, moi j'ai beaucoup bu pendant le confinement.
Et en ces temps de distanciation sociale, elle n'a pas peur de jeter un véritable pavé dans la mare en affichant ses convictions hédonistes.
Se faire des baisers et même baiser tout court, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie avec le cinéma.
Pierre en conviendra, baiser c'est bien, mais uniquement s'il y a consentement. Or, cette question du consentement se pose, on l'oublie un peu trop souvent encore, dans le couple.
Oui, oui, vous connaissez l'expression « pas ce soir chérie, j'ai la migraine ».
Oui, enfin bon. Ça maintenant, on ne le fait plus. Parce
c'est
que
un peu un cliché. Ouais. Le célèbre sociologue à moustache, vous le connaissez, Jean-Claude Kaufmann, publie un livre qui s'appelle « Pas ce soir » où il raconte très bien le déséquilibre de désir dans le couple. Alors, il y a toujours un qui veut plus que l'autre. Hein, souvent l'homme, mais grosso modo, j'ai quand même cherché des chiffres, c'est deux femmes pour huit hommes déclarent être frustrées et vouloir plus faire l'amour. Donc quand même, c'est plus souvent les hommes que les femmes. Et il raconte que contrairement au cliché, c'est pas que les hommes ont de plus de gros besoins, c'est qu'ils ont une trajectoire de désir différente.
C'est quoi la trajectoire du désir ?
Ça veut dire que pour l'homme, il a un désir qui est plutôt constant, assez régulier au fil des années, quel que soit l'état
Dieu
de la relation.
Château, il y a des vénards. Hein. Besoin constant. Putain, j'ai jamais connu. Bon, d'accord, enchaîné, pardon.
Ne donnez pas de regrets à Pierre Perret.
C'est-à-dire que quel que soit l'état de la relation, c'est ça qui est intéressant, qu'elle soit pas passionnée, amoureuse, plan-plan ou même conflictuelle, le désir de l'homme est plutôt assez constant chez la
femme. Moi, je trouve que c'est assez vrai.
C'est vrai ?
Oui, c'est vrai. C'est moins fluctuant, j'ai l'impression.
Voilà, et les femmes, c'est beaucoup plus irrégulier.
Pourtant, c'est plan-plan dans ton couple.
C'est pas du tout ce que je dis, si vous lisez entre les lignes. Mais je ne m'étendrai pas plus sur la question.
Il vaut mieux.
Car, voilà.
Voilà. Chez les femmes, c'est plus irrégulier. Le désir est plus capricieux. Ça va, ça vient. Il y a des baisses de désir qui sont un peu beaucoup. Kaufmann dit parfois, c'est l'affaissement total du désir chez la femme.
Comment expliquer, quelque part, scientifiquement
c'est le passage que j'adore. C'est pas tellement ni hormonal, ni biologique. C'est sociologique.
Ah,
et
ça,
en cause, c'est quoi ? C'est les tâches ménagères. Parce que je vais vous expliquer, le désir est inversement proportionnel aux tâches ménagères. Plus la femme agite le balai, le fer à passer ou son panier de courses, moins elle agite le reste.
Ça c'est vrai.
La femme porte la charge mentale de la construction du foyer. C'est stressant, c'est fatigant. Et donc ça laisse moins de place au désir, à la disponibilité, parce que pour faire l'amour, pour avoir envie de faire l'amour...
En revanche, quand je fais le ménage, j'ai droit à une récompense.
Alors ça, j'allais
dire... Mais Mathieu d'accord. Oh là là, mais ce sexisme.
Je me dévoile beaucoup dans cette émission,
C'est
un jeu d'acteur, évidemment.
C'est pas que de la blague. Donc pourquoi ce déséquilibre du désir, ça s'exprime comment ? Sous la couette, tout le monde est malheureux. D'un côté, vous avez la femme qui n'ose pas dire non à son conjoint parce qu'elle l'aime le plus souvent. Elle culpabilise, elle a peur non seulement de le blesser, de lui faire du mal ou même de le perdre. Et puis de l'autre côté, vous avez l'homme qui dit, qui comprend pas cette baisse de désir. Pourquoi t'as plus envie, tu m'aimes plus ? Comment l'expliquer ?
Est-ce qu'il n'y en a pas un de temps en temps qui dit, putain, ça me repose ?
Alors, ça serait pas mal, c'est une très bonne solution.
Et ben oui.
Mais vous allez voir que c'est compliqué de dire ça à quelqu'un qu'on n'a pas envie. Donc l'homme, soit il comprend pas, soit il le voit pas, tout simplement. Donc on arrive à la question du consentement, c'est-à-dire
les hommes, ils voient jamais rien.
Alors c'est possible aussi, mais l'homme, on lui a appris aussi que la femme, elle dit toujours un peu non avant de dire oui. Ça fait des milliers d'années que l'homme, il a ça en tête.
Ça, c'est en train de changer quand même,
Eve. Oui, bien sûr, mais c'est ancré.
J'ai rarement entendu dire non. Hein.
Ah, moi, j'ai pas de migraine. Hein.
D'accord. Très bien.
Pierre Perret le note.
Je note.
Donc, la femme, elle envoie des signaux de refus, mais comme elle est un peu gênée, elle a la peur, et ces signaux sont mal décryptés par l'homme. Donc, une main qui arrive sous la couette, la femme, elle se retourne, l'homme, en général, il voit pas bien que ça veut dire non, et c'est très compliqué. Alors comment on sort de cette c'est une impasse, c'est une ornière, et c'est paradoxal. Donc, aujourd'hui, le couple, on pense qu'on est très libéré, et vous avez raison, Pierre Perret, en fait, il faudrait le dire. Il faudrait le constater, que la femme puisse dire non, là en ce moment j'y arrive pas. Et souvent, le dialogue et la constatation, c'est le début. On renoue le dialogue sensuel et sexuel en parlant de ça, mais c'est un sujet ultra tabou. Et puis une deuxième astuce que je vais vous donner, et ça, Mathieu, vous avez raison, si vous prenez l'aspirateur, si vous faites la vaisselle, eh ben je peux vous dire que non seulement la femme... Tout d'un coup,
visiblement, Axel prend souvent l'aspirateur.
Je prends des notes, surtout. Ce soir, ça va être le grand nettoyage de printemps à la maison.
Mais Axel, prenons rendez-vous demain. Vous me direz le résultat.
Mais pas avec vous, avec sa femme.
Mais bien sûr, parce qu'en réalité, ça libère de l'espace psychique pour la femme, parce qu'effectivement, elle n'aura pas à le faire. Et puis, c'est vrai, moi je suis d'accord, un homme avec un aspirateur, je trouve ça assez sexy.
Moi, j'aime mieux avec une femme qu'avec un aspirateur.
Ah, monsieur reste classique. Il y a pas mal d'aphorismes sur les femmes, sur le sexe aussi, dans Aphorism and Blues, ce livre que vous publiez aux éditions Adèle Pierre Perret. Quelques exemples. Je me dis parfois que la femme de Newton avait intérêt à être inventive dans tous les domaines.
Ah, il est génial celui-là.
J'aime bien ça. Si t'es l'amant, t'auras le bonbon. Si t'es le mari, t'auras le lardon. Ça, c'est très vrai aussi. Pour les hommes, les mathématiques et la femme ont toujours été une énigme. Les mathématiques, pourtant, il en est qui arrivent à trouver une solution. Ça, c'est pas très optimiste, Pierre Perret.
Non, mais c'est réaliste.
C'est du vécu.
Non, moi j'observe, c'est tout. Moi,
mais vous surtout, ça fait très
longtemps. Combien d'années de mariage ?
Vous surtout, vous avez un record d'années de mariage.
Oui.
Donc, combien ?
C'est dans quelle année ?
Ah ben, 62, je ne sais pas si vous
alors,
voyez.
Alors ça va nous faire 58.
Oh, l'expert en économie !
Oh là là, il s'est encore fait une soustraction.
58 ans de mariage. Je ne sais même plus, c'est les noces de quoi là ? C'est les noces je ne sais pas, de platine. En tout cas, c'est beau. Malgré tout ça, vous ne pensez pas avoir réussi à comprendre les femmes ? Vous comprenez la vôtre, déjà l'essentiel.
Alors, plus ça va, plus ça se creuse.
C'est sur cette note optimiste que nous allons clore cette séquence. Merci beaucoup, Evangé.
Europe 1.
C'est une maladie encore taboue. Pourtant, l'érotomanie touche une personne sur 100.
Au moindre sourire, au moindre mot gentil, l'érotomane est persuadée que la personne en face d'elle veut coucher avec elle. Voilà pourquoi je préfère vous prévenir, Pierre Perret. Dans la séquence qui suit, où Eva va vous interviewer, elle risque de conclure en disant...
Ça y est, vous avez envie de moi, quoi.
Non, Eva, Pierre est juste poli. L'interview d'Eva, c'est juste après Pierre Perret. Mon petit loup sur Europe. Mon petit loup, une chanson qui, à mon avis, peut marcher. C'était Pierre Perret sur Europe.
L'équipe sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
C'est le moment de l'émission Pierre Perret où, dans mon infinie mensuétude, je laisse le micro à cette niçoise, à la faconde légendaire qui adore parler. Andy Warhol disait qu'un jour chacun aurait son quart d'heure de célébrité. Il voyait un peu trop large à mon sens. Eva, je vous donne 4 minutes, ça sera suffisant.
Moi, généralement, c'est 3, mais c'est pas grave. Quelques petites questions, Pierre, parce que je sais que vous aimez tellement les mots que je voulais en profiter. Je voulais plonger avec vous dans un dictionnaire. Votre mot préféré en ce moment, ce serait quoi?
Les nuages.
Nuages, pourquoi?
Parce que il y a qu'eux qui sont libres. Maintenant, c'est les derniers libres sur cette planète.
Votre mot d'amour préféré?
C'est vous.
Elle va fondre.
Mais arrêtez, mais ne cassez pas ce moment magique là, Mathieu Noël.
Excusez-moi, c'est mon métier de casser
votre
les moments
magiques. Votre insulte préférée à l'égard de Mathieu Noël?
Oh non, je t'adore, toi.
Ah oui, mais oui, une petite insulte.
Non, vous aimez bien les insultes. L'insulte que vous aimez dire?
Bah écoutez, si j'avais su, je vous aurais ramené le bouquin que j'ai sorti il y a 20 ans.
Oui.
Ça s'appelle « Jurons, gros mots et autres noms d'oiseaux ». Il y en avait 2000 dedans. Alors,
est-ce qu'il y a un mot lié à la cuisine, à l'univers de la cuisine que vous aimez particulièrement?
Que je prononce assez souvent, c'est la tortore.
C'est quoi la tortore?
La tortore, c'est...
C'est la
bouffe. Oui, exactement.
Mais ça, c'est un néologisme ou c'est un mot qui existe, que vous avez repris, ou c'est un mot que vous avez inventé?
Alors, j'en sais plus rien.
Ah, c'est bon,
parce
ça
que souvent, quand je cherche un mot et que je ne le trouve pas, mais c'est vrai que j'en ai à mon actif quelques-uns. Oui. Non, celui-là, c'est un vieux mot. Je crois que même mon copain Boudard en parlait de ça, et le breton, Auguste, il en servait souvent.
Moi, j'aime bien tambouille.
Tambouille, c'est joli, tambouille.
Ça bien
ici, ouais.
Aussi.
Tambouille, ça fait caserne.
Oui, et ça fait... c'est pas raffiné, quoi.
Oui, c'est pas raffiné, oui, ça c'est clair. Et le premier mot que vous avez prononcé quand vous êtes arrivé sur cette terre, est-ce que vous savez ce que c'est?
Merde alors.
Et celui que vous aimeriez prononcer en dernier?
Merde alors.
On en parlait hors micro, il y a une chose qui vous émeut beaucoup, c'est quand des écoles ou des bibliothèques portent votre nom.
Ah oui, ça oui.
On en
c'est
est
votre légion d'honneur, quoi, c'est ça? C'est un peu...
Ah oui, enfin, oui, ça... Ils m'ont fait filer la Légion d'honneur il y a des années, mais ça me fait plus plaisir que n'importe quoi d'autre, ce genre de choses. Des écoles, il y a des rues. La première école que j'ai eue à Valence d'Agen, c'est Jean-Michel Baillet, qui était à l'époque ministre ou député, je ne sais pas, il a été tout tellement. Alors il m'a dit, voilà, j'ai décidé de donner le nom à l'école, et ça s'appellera Pierre Perret. J'étais vachement content. Ça, mais j'étais ému comme tout. Puis je suis allé faire l'inauguration. Mais quelques mois après, je chantais dans le coin et je suis repassé pour embrasser les enfants parce qu'il y a une école maternelle et tous ces enfants étaient pendus en grappe à mon cou et tout ça. Pierre Perret, je t'aime. Bon, c'était magnifique. Et Jean-Michel me dit, ben, j'ai quelque chose à te montrer. Viens, on a fait des modifications autour de l'école, regarde. Alors, qu'est-ce qu'il veut me montrer? Alors, on est parti faire le tour de l'école, tu vois, et au coin de l'école, au début de la rue, il me dit, tiens, tu veux pas tirer ce torchon-là? Ce torchon, c'était le drapeau français avec lequel il avait caché une plaque au coin de la rue, et il y avait rue Pierre Perret, auteur-compositeur. Voilà.
C'est génial.
Axel de Tarlet en rêve, une rue de Tarlet.
Oui, mais vous savez qu'il n'y a que trois types de personnes qui passent à la postérité, les artistes, les politiques et les scientifiques.
Et jamais les économistes,
peut-être ni les journalistes talentueux.
Peut-être parce qu'ils se trompent tout le temps, les économistes. On verra. Bientôt de retour sur scène, il est déjà de retour en librairie avec Aphorism and Blues, Pierre Perret, notre invité jusqu'à 18h.
Europe 1.
Et si, comme à l'époque bénie des musclés dans cette émission hautement subversive qu'était le Club Dorothée, le nucléaire redevenait tendance? Et oui, c'est en tout cas le fol espoir de cet ardent partisan de l'atome qu'est Axel de Tarlet qui nous explique comment une énergie chère, polluante et défaillante séduit encore, bon, surtout les Anglais, mais quand même.
16h, 18h.
L'équipe est sauvage sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
C'est une joie doublée d'un honneur de recevoir Pierre Perret cet après-midi dans l'équipe est sauvage. Lundi, Pierre, c'était la rentrée des classes pour tous les élèves de la maternelle au collège. On a parlé de ces écoles qui portent votre nom, cette fierté que vous avez. Vous avez adressé un message de soutien aux enseignants et élèves des écoles durant le confinement via les réseaux sociaux. Dans cette lettre, vous écriviez « Nous n'irons pas ensemble nous promener sur une planète qui n'est aujourd'hui ni très sûre ni très accueillante. Elle l'était pourtant superbe. Hélas, depuis un demi-siècle, les hommes ne l'ont guère ménagée. Enlaidie, saccagée, empoisonnée, les hommes ne l'ont guère ménagée. Est-il si étonnant qu'elle se venge à sa manière ? Pour vous, ce qui nous arrive, un virus comme le coronavirus, une pandémie mondiale, c'est quelque part une vengeance de la nature ?
Je pense que c'est le résultat d'une accumulation de conneries qu'on fait depuis quand même pas mal de temps, et tout le monde les accumule dans tous les sens. On a bousillé la mer, on a bousillé le ciel, on a bousillé la terre, on a foutu du poison partout. Cette année, je m'apprêtais gentiment, après ce déconfinement, à partir en Irlande pêcher le saumon. Ben, je crois que ça fait partie d'un des derniers plaisirs peut-être qu'on peut faire. Il n'y a pas d'eau et il n'y a pas de saumon.
Voilà. Ah oui. Est-ce que vous êtes malgré tout optimiste par rapport à ce qui pourrait se passer demain ? Est-ce que vous pensez que les jeunes, on voit Greta Thunberg, est-ce que vous pensez que les jeunes vont réussir à faire basculer le monde du bon côté, ou vous pensez qu'on a atteint le point de non-retour ?
Je pense vraiment qu'il n'y a que les jeunes qui peuvent sortir de cette situation en se battant, parce qu'il est vraiment tard là. Les jeunes, ils prennent le train en marche là, mais il y en a qui vont se bagarrer. Je pense qu'il n'y a que ça. On a trop fait de conneries, mais vraiment, on les a accumulées là, sérieux. Et oui, pour moi, c'est la résultante de ça. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est pas une croyance, c'est malheureusement, je crains que ça soit un constat réaliste, mais ça n'engage que moi.
Alors, je ne voudrais pas doucher, Pierre, votre optimisme écologique, mais voici le meilleur ami de Geoffroy Roux de Bézieux. À l'heure où toutes les personnes dotées d'un minimum de conscience écologique songent à réduire leurs émissions et s'acheter un vélo, lui, il vient de songer...
Et si je m'achetais une voiture ?
Il a déjà pris rendez-vous chez Hummer pour tester leur nouveau modèle. Le temps de boucler un petit édito sur les vertus du gaz de schiste. Voici Axel de Tarlé. Axel, pour vous, les énergies vertes ne sont qu'une lubie puérile d'ex-68ard maoïste. L'énergie du futur, comme les Anglais semblent le penser, c'est le nucléaire.
Mais oui, parce que je m'étonne. Vous savez que nous, en France, EDF a le plus grand mal avec sa centrale nucléaire, l'EPR, vous savez, à Flamanville. Les délais se rallongent, la facture a triplé, quadruplé. Et donc, les Anglais nous ont commandé déjà deux EPR en Angleterre. Et on a exactement la même chose. On n'y arrive pas. La facture, il y en a pour 25 milliards maintenant pour deux réacteurs. Et la surprise, c'est que les Anglais sont sur le point de commander à EDF deux autres réacteurs EPR, alors ce coup-ci à l'est du pays. Et cette semaine, le Télégraphe nous apprend, et c'est pas le tout, ils sont encore allés voir EDF, ils ont dit, on en voudrait bien encore d'autres centrales dans le nord du pays. Donc la question est,
pourquoi
les Anglais raffolent-ils comme ça de cette technologie qui ne marche, qui coûte cher, qui est polluante, en fait, etc. Et alors, je vais expliquer d'abord le fond, pourquoi ils sont très pro-nucléaires, les Anglais, mais d'abord la forme. En fait, ils envisageaient autrefois de commander ces centrales nucléaires notamment aux Chinois. Et si vous voulez, avec toutes les tensions géopolitiques, ils se disent « Oh là là, si on confie notre électricité à Xi Jinping, que ne va-t-il pas nous arriver ? Un jour, on aura dit quelque chose de travers sur le Tibet et hop, le grand Xi, il nous coupera l'électricité. » Donc, ils se sont dit, comme il n'y a pas 36 fabricants de centrales nucléaires au monde, ils disent, au moins les Français, bon, on s'est battus, mais c'est de l'histoire ancienne, on peut leur faire confiance.
Donc ça, c'est pour ça que c'est nous.
Mais ça, c'est pour ça que c'est nous. Alors maintenant, sur le fond. Pourquoi est-ce que ils choisissent ce cas ? Eh bien, écoutez, là, je vais être un peu choquant, mais c'est vrai que face à l'urgence climatique, et c'est un discours qui est tenu par pas mal d'écologistes, qui est de dire il faut hiérarchiser nos problèmes, car le nucléaire a beaucoup de défauts. Il y a le défaut des déchets, dont on ne sait pas très bien quoi faire, il faut les enfouir, etc. Il y a le risque que ça pète, etc. Mais il y a un problème que n'a pas le nucléaire, c'est que le nucléaire émet zéro CO2. Ça n'émet pas de gaz carbonique. Donc, le nucléaire... Pour le réchauffement climatique, ça ne crée pas de problème. Et donc, les Anglais disent, eh ben écoutez, on va essayer d'hiérarchiser les problèmes, on va faire des énergies propres, donc des éoliennes et du machin, et on va faire à côté du nucléaire en complément, parce que les énergies propres, elles sont alternatives. Vous savez, quand il n'y a pas de soleil, quand il n'y a pas de vent, ça ne produit plus. Eh ben je trouve, franchement, que c'est quelque chose qui peut se tenir face aux Allemands, qui, eux, ont décidé de sortir du nucléaire, et qui, en complément, font du charbon. Et personne ne le dit. Le 31 mai,
le charbon,
à Dortmund, ils ont rouvert une nouvelle centrale à charbon de 1,1 gigawatt. Centrale à charbon, ça pollue pour 30 ou 40 ans. C'est la plus polluante des énergies.
Ça, c'est le pire, c'est des assassins.
À côté de Dortmund. On n'en parle pas, si vous voulez, parce que les Allemands, personne n'osait les critiquer. Et ce que je voulais vous montrer là, c'est que vous avez
toujours
en temps réel.
De montrer en radio.
Vous avez, si vous voulez le voir, vous avez en temps réel le, ce qui s'appelle electricitymap.org. C'est un site ouais. qui, en temps réel, vous montre les émissions de CO2 dans les différents pays européens. Par pays. Vous voyez que la France est verte. Si je clique dessus,
ah oui, on est bien vert.
On émet combien 80 grammes de CO2. Alors il n'y a pas de chance en ce moment, ils ne donnent pas l'Allemagne. Je peux vous dire, je l'ai fait ce matin. L'Allemagne, ils étaient à 400. Et si vous regardez par exemple les Pays-Bas, ils sont à 500. Ça veut dire
c'est
qu'ils ils polluent 7 fois plus que, ou 6 fois plus ouais. que nous. Donc si vous voulez, les Anglais, que font-ils? Ben, ils regardent cette carte et ils disent ben, qu'est-ce qu'on prend exemple sur quoi? Sur les Français qui sont ouverts, qui n'émettent pas de CO2, qui ne contribuent pas par leur choix à, on en pense qu'on en veut le nucléaire, mais qui ne contribue pas à réchauffer le climatique, ou on fait comme les Hollandais qui polluent 6 fois plus.
Je sens que vous avez presque convaincu Pierre Perret qui m'a l'air de devenir pro-nucléaire.
Non, non, mais je pense profondément qu'il a raison de partir tout de suite, de couper tout le nucléaire et de repartir comme les Allemands au charbon ou même avec les voitures électriques, parce que qu'est-ce que vous croyez qu'on en fait des moteurs après avec les voitures électriques?
Les batteries, oui.
Les batteries,
Vous en faites quoi?
D'autant que si la voiture électrique consomme de l'électricité produite avec du charbon, on ne fait que repousser le problème. L'émission,
exactement.
Elle n'est pas dans la voiture, elle est dans la centrale.
C'est bien beau, comme vous disiez tout à l'heure, de déshabiller Pierre pour habiller Paul, mais ça reviendra au même. Et ce n'est pas la pire des solutions que dans l'immédiat, de perdurer avec le nucléaire, le temps peut-être de trouver des autres solutions plus intelligentes, mais c'est pas la plus pourrie. Je suis d'accord avec vous, mon cher Axel.
Eh ben voilà, une victoire qui se profile à l'horizon.
Une victoire se profile, peut-être,
je
Axel.
Je vois que Ève est très inquiète avec son sujet mais... sur le non-consentement des hommes.
Et je vais peut-être recevoir un buisson d'insultes après votre émission, ça va pas tarder, mais bon.
Écoutez, non, je crois que c'est assez simple, finalement, les plus grands penseurs et les plus grands scientifiques se sont penchés sur la question du nucléaire, mais je crois que finalement, la bonne réponse, c'est déjà Éric Desmusclés qui l'avait il y a déjà quelques années. On sait que le nucléaire est la solution. Bravo.
Europe 1.
Ne bougez pas, Pierre Perret reste avec nous. Vous allez forcément découvrir des choses sur lui, car n'oubliez jamais que grâce à mes questions futées, dans l'équipée sauvage, on apprend toujours des trucs incroyables sur les invités. Souvenez-vous de l'émission avec Tatiana Dronet. Où écrivez-vous? Moi, c'est une question que je me pose à chaque fois que je lis un livre comme ça. Est-ce que vous avez une pièce fétiche, un endroit où...
À votre avis?
Votre bureau?
Ben oui.
Ok, Pierre Perret, écrit-il dans son bureau ou dans sa salle de bain? Il a réservé l'exclusivité de sa réponse à Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Comprendre le monde sans jamais oublier d'en rire, ça pourrait être une maxime de Pierre Perret, notre invité. C'est la devise de l'équipée sauvage. La grande compétition qui oppose chaque après-midi les meilleurs journalistes d'Europe 1 au service de votre savoir. Une émission dans laquelle les artistes se livrent aussi avec beaucoup de générosité. Parfois même, quand ils sont bien chauds, ils vont jusqu'à se foutre de la gueule d'autres invités, comme Benabar lundi quand il a entendu la vanne qu'avait faite Thomas Dutronc à notre micro.
Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer et le perdant devait porter son slip au-dessus du pantalon. Voilà.
Un petit mot sur Thomas Dutronc.
Il joue mieux de la guitare quand même.
Aujourd'hui, c'est donc Pierre Perret qui nous accompagne, si tout va bien. Si tout va bien. Les spectacles pourront reprendre petit à petit et vous serez en concert partout en France, notamment à Paris, salle Playel, Mazette, les 10 et 11 octobre prochains, mais aussi en Suisse et en Belgique pour, je vous cite, vos adieux provisoires. C'est-à-dire que prenez pas de risques. C'est vrai que oui. Sardou, il a fait ses adieux, je ne sais pas combien de fois, et il est toujours revenu. Donc là, vous prenez des pincettes.
Ils ont tous fait des adieux, ils sont revenus 14 fois. Alors moi, j'ai pris la précaution d'utiliser justement ce mot qui me semble très adéquat, c'est provisoire. Si je me tire, vous verrez bien, mais si je continue, ben, tant pis pour vos pieds, voilà.
Est-ce que vous faites partie de ces artistes qui veulent absolument mourir sur scène, être jusqu'au bout, faire de la scène ou
mais
quelque
non,
part
justement,
vous...
c'est pour ça. Ben, vous vous rendez compte non, pas du tout. Moi, j'ai jamais fait... La grande chance de ma vie, c'est d'avoir traversé la vie en faisant exactement ce que j'avais envie de faire. Et ça, c'est un privilège quand même extraordinaire. J'ai vécu toujours de ce que j'ai commis. Et j'ai commis pas loin de 500 chansons et une vingtaine de bouquins. Bon, ben, tout va bien. Tant que je peux continuer comme ça. Mais si un jour, je me vois arriver en scène... à moitié gaga, etc. J'espère qu'on me le dira avant, si je m'en aperçois pas, mais ça serait la pire des choses. Comment vous voulez emmerder des gens que vous avez réjouis toute votre vie, qui ont été fidèles, qui ont... J'ai jamais connu une salle vide. Je dirais, bon, on va dire, Perret, il a le melon, mais c'est la réalité.
Oui, il n'y a jamais eu de creux dans votre carrière.
Jamais, j'ai jamais arrêté. Je n'ai arrêté volontairement qu'au moment où ça marchait le mieux. Mais j'ai arrêté une année sabbatique qui a duré 2 ans.
Son livre, Aphorism and Blues, sera un excellent compagnon de plage cet été. Pierre Perret reste avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'heure du dîner approche et vous n'avez pas encore la moindre idée de ce que vous allez cuisiner. Pas d'inquiétude, Olivier Poulpe, notre expert gastronomique, arrive avec sa recette de dernière minute. Son hédonisme va vous plaire, Pierre, car Poulpe, c'est le genre d'homme qui parle aux aliments qu'il cuisine avec la même tendresse qu'il parle à sa femme.
Je te mangerai bien tout cru.
Delicine Extremis, votre recette express arrive juste après Voyous, les humains sur Europe 1. Les humains, c'était Voyous sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est un moment important, si ce n'est le plus important de notre après-midi, le moment où l'on décide ce qu'on va bouffer le soir. Pierre Perret, si vous ne le connaissez pas déjà, j'aimerais vous présenter Olivier Poulpe. Vous l'avez peut-être déjà croisé au détour d'un couloir d'Europe 1.
Il buvait du vin blanc, ah oui. Et puis après, il disait « Oh, vous n'avez pas de l'agneau ?»
Oh oui, c'est lui, c'est bien lui. Bonjour Olivier Poulpe.
Bonjour mes amis, est-ce que vous êtes toujours prêts à manger cru ?
Oui, on est toujours depuis prêts lundi, on mange cru, c'est pas mal.
Évidemment, en suivant à la lettre vos conseils et hygiène. Les conseils d'hygiène surtout.
Oui. Oui, et je le répète, puisque nous avons préparé du poisson aujourd'hui, il faut être extrêmement vigilant, le poisson le plus frais possible. Et petit conseil...
Je me souviens d'un poisson à la tahitienne que m'avait préparé Maxime Switek, que vous connaissez sur Europe 1. J'ai été malade pendant 3 jours.
Oui, mais ce qui était bizarre, c'est que vous avez été que vous malade, alors qu'on était une dizaine dans ce repas.
Pas du tout, sa compagne avait été malade aussi.
Oui. Peut-être parce qu'il s'est resservi 6 fois, en fait.
C'est peut-être aussi pour ça. Alors attention avec le poisson.
Oui, le poisson, il vaut même mieux le passer au congélateur avant. De le travailler. Oui, parce que le congélateur va tuer certaines bactéries. Alors, pas 100%, mais ça peut en éliminer un certain nombre. Et passer le poisson au congélateur, c'est en principe se garantir un poisson plus sain et en tout cas moins potentiellement toxique. Donc, évidemment, ustensile toujours impeccable, laver, plan de travail très près. Pour ce qui est du petit, de la recette d'aujourd'hui, je vous emmène au Mexique pour faire ce qu'on appelle un aguachile. Est-ce que vous savez ce que c'est?
C'est comme un ceviche.
Ça pourrait
comment
y faire
dites,
un petit peu.
J'allais prononcer autrement.
Un ceviche.
Le ceviche n'est pas mexicain.
J'ai dit comme.
Oui. C'est un petit peu l'idée. Donc là, pour le coup, on va prendre des crevettes crues. C'est très très bon. On va prendre un oignon rouge, du concombre, beaucoup de citron vert, un petit peu de piment et de coriandre. On va tailler notre concombre en fines rondelles qu'on va disposer dans le plat. Dessus, on va déposer de fines rondelles d'oignon rouge. On va prendre les crevettes qu'on va décortiquer. On enlève le petit boyau qui est au milieu, vous savez.
Ah oui, le petit noir, là, c'est pas bon.
Voilà. Mmh. On va les tailler en fines lamelles. On va poser ça par-dessus. Et on va préparer la sauce. C'est du jus de citron vert avec du piment et de la coriandre.
Mais quel type de piment? Je vous trouve assez imprécis.
Soit on a des piments type piment de Cayenne, ou pourquoi pas du piment d'Espelette, ou pourquoi pas du piment frais qu'on achète au marché.
Et pourquoi pas du piment oiseau un peu plus fort?
Exactement,
voilà,
si vous avez envie,
ça envie que ça soit robuste.
Mais alors attention, si vous chargez en piment oiseau, vous pourrez avoir quelques petites surprises.
Mais ça fait partie de l'aventure. Hein,
voilà, bon. Coriandre, et 10 minutes avant de servir, on arrose notre préparation avec cette sauce, et la sauce, elle va légèrement cuire les crevettes. Alors, pas plus de 10 minutes, parce que sinon, ça risque effectivement de trop cuire la crevette, et pas moins non plus, parce que sinon, on n'aura pas l'effet escompté. Donc, 10-12 minutes avant de passer à table, on arrose. Et voilà, on a ce qu'on appelle un aguachile. Viva Mexico.
Viva Mexico, ce qui sera l'occasion d'écouter peut-être une chanson typique du Mexique. Merci Olivier Poulpe pour cette belle recette.
Europe 1.
C'est le moment où tout bascule. Dans quelques secondes, nous saurons qui vous avez désigné chroniqueur du jour. Axel, vous semblez exagérément confiant. Pourquoi vos rivaux ne pourraient-ils pas l'emporter, selon vous?
Un énorme problème, leur poids.
Le ton est donné, tout de suite pour la grande finale.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Pierre Perret a une immense responsabilité sur les épaules. Désignez avec vous, chers auditeurs, celui de nos journalistes qui sera élu
chroniqueur du jour. Avant cela, ils ont chacun 10 secondes pour plaider leur dossier. Attention à bien choisir vos mots et à ne pas dire n'importe quoi, comme Anne Le Gall hier.
Parce que moi, sur une scène de danse, je pense que j'ai à peu près la légèreté d'une palourde.
Mais c'est léger, une palourde.
Vous avez chacun 10 secondes pour nous expliquer pourquoi vous méritez la victoire aujourd'hui. Ève Roger.
Moi, j'ai juste une question à vous poser, Pierre Perret. Répondez-moi franchement, est-ce que vous préférez faire l'amour avec une femme consentante ou visiter une centrale nucléaire avec Axel de Tarlé?
Oh, j'irai jusque avec Axel visiter
la centrale. J'en étais sûr.
Axel rougit.
Je te le sers sur un plateau.
Ouais, c'est beau. Anissa Mbida, pourquoi faudrait-il voter pour vous aujourd'hui?
Je ne vais pas poser la question à Pierre parce qu'il a dit qu'il n'utilisait pas son téléphone. Donc, je m'adresse aux auditeurs. Je ne sais pas pour qui ils ont voté. Mais faites attention quand même à tout ce qu'on vous balance sur votre téléphone portable, c'est un peu de responsabilité et numérique, ça fait du bien à tout le monde.
Et désactivons la géolocalisation.
Faisons attention à ce qu'on télécharge, notamment les applications gratuites, et ne disons pas oui à chaque fois qu'on vous propose quelque chose.
Oui, pour gagner du temps, souvent. Farah Kasri, pourquoi voter pour vous et votre sujet sur les zizi d'animaux, sujet particulièrement osé aujourd'hui?
Tout simplement parce que vous allez pouvoir dire que votre organe d'intromission est un héritage qui s'est perfectionné durant 400 millions d'années, donc il faut l'apprécier à sa juste valeur. À condition que vous en soyez à la hauteur.
Oui, et moi je retiens une chose de votre chronique, c'est que j'en ai une plus grosse que le gorille. Et ça, je peux vous dire que je vais le mettre sur mon CV.
Est-ce qu'on peut le prouver? Est-ce qu'on peut le vérifier?
On peut le prouver tout de suite. Non, bon.
Ça fait plus de 5 cm donc.
Oui, bon, je vous en prie, Eva.
Et est-ce que la femelle gorille était consentante, comme dirait Roger, avec ce sujet
pourri? C'est une autre question. L'autre question, c'est pourquoi faut-il voter pour vous? Axel, j'ai l'impression que c'est bien parti du côté de Pierre Perret, en tout cas.
Eh bien, c'est pour ça que je vais tenter une note d'humour. Mon sujet sur le nucléaire, c'était de la bombe.
Non, ça, vous auriez peut-être pas dû.
C'est toujours quand vous vous aventurez sur les terres de l'humour.
C'est la peur de perdre.
C'est la peur de gagner.
Là, dans le dernier set, le mec, il craque.
C'est très français, ça. Voilà. C'est très Henri Lecomte à Roland-Garros, on l'embrasse. Alors, dévoilons d'abord, Eva, le choix de nos auditeurs.
C'est Ève Roger qui remporte les 2 points.
Ève Roger remporte le...
C'était très serré. Hein.
C'était très serré, ouais. Le vote des auditeurs. En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui. C'est compliqué, mais je donne mon point à Anissé Mbida. Parce qu'effectivement, je me laisse souvent berner par les applications gratuites. Et voilà, et vous m'avez montré que j'avais tort. Mais ici, de toute façon, c'est l'invité qui tranche. Pierre Perret, vous avez 3 points qu'il faut donner à une seule personne. Qui? Non, parce qu'on a entendu. On a entendu des gens essayer de donner un point à l'un, un point à l'autre, bidouiller. Ouais. J'ai dit non. Pierre Perret, qui avez-vous préféré aujourd'hui?
Eh bien, Anissé m'a dit ça. C'est mon choix, parce que je ne voudrais pas être suivi avec mon ronfleur, qu'on me suivra la trace partout, comme ça, je trouve ça dégueulasse. Alors, voilà.
C'est un vote exceptionnellement vicieux, puisque Axel ne parlait que jusqu'au bout qu'il allait l'emporter. C'est Anissé Mbida qui remporte la 199e édition
de
l'équipé sauvage. Axel s'est tiré une balle dans le pied avec sa vanne de dernière minute. Jamais tenté une vanne de dernière minute. C'était donc la 199e journée de l'équipé sauvage. On remercie Pierre Perret, que vous retrouvez en livre Aphorism and Blues aux éditions Adèle. Et bientôt en concert à la rentrée. On donne quelques dates, Eva.
La salle Payette, ça sera le 10 octobre et le 11 octobre. Et puis vous serez partout, même en Belgique, au Luxembourg. Ça court jusqu'en 2021.
Je remercie mes équipiers du jour, Eva Rock, Ève Roger, Farah Kasri, Anissé Mbida, Axel de Tarlé et Olivier Pouls. L'équipe sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1, écoutez Le Monde Changer avec Nathalie Lévy et Sébastien Krebs pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu et bonsoir à votre équipée sauvage. Demain, nous serons là à 16h. Très belle soirée à vous Mathieu.